Bon, je voudrais remercier les organisateurs et les organisatrices. Moi aussi, je voudrais aussi les féliciter pour la dimension interdisciplinaire du colloque que je trouve assez formidable. Alors, comme on est en fin de journée, je vais essayer de rester au plus près de mon texte pour ne pas être trop long. Et je commence en citant un de mes philosophes préférés qui est Groucho Marx des Marx Brothers. En anglais, parce que vous allez voir que la formule est plutôt intraduisible. Et la suivante: Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. Cette citation a l'avantage de signifier déjà un lien entre le chien et le livre. L'imaginaire de l'animal accompagne la littérature depuis toujours. Imaginer l'animal, c'est créer une altérité qui permet de se penser d'abord comme mammifère et provoque un décentrement. Plus largement, échapper à l'anthropomorphisme est une manière de penser autrement le langage. Je donne un exemple que je vois au biologiste Jean-Claude Amundsen. Par réflexe, on associe la vue à l'œil. En réalité, c'est notre cerveau qui fait parvenir l'information aux yeux. Le dire ainsi est certes banal, mais Amundsen rappelle que les plantes aussi voient, c'est-à-dire que la photosynthèse végétale nécessite qu'elles se tournent vers la lumière pour vivre, car elles ont besoin de l'énergie solaire. Cette mise à distance nécessaire du langage pour penser le monde au-delà de nous, êtres humains, on le devine souvent à travers des romans où les chiens sont mis en présence, peut-être parce que notre rapport à ceux-ci est plus facile depuis 15 000 ans que nous les côtoyons qu'avec l'amibe ou la tarentule. Alors, les travaux sur l'animalité se multiplient depuis 2 décennies, on en a parlé, je pense en littérature, aux travaux de l'équipe d'Anne Simon, par exemple. La recherche que j'entreprends sur le sujet, qui se situe dans la suite de mes travaux, il s'agirait de penser l'animal dans la fiction dans la filiation d'une pensée et d'un savoir sur la science. Voir comment l'évolution de la pensée scientifique sur l'animal dans le discours social a servi de médiation pour penser l'imaginaire de l'animal. Alors, en ce qui concerne l'animal, je voudrais réfléchir historiquement à partir des débats autour de la vivisection en Angleterre dans la deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à ceux contemporains sur la pensée animale. Et je pense qu'un des romans clés à ce propos, c'est L'île du docteur Moreau de Herbert George Wells, qui s'inspire justement du discours contre la vivisection, qui s'intéressait à ces questions, qui a suivi lui-même les cours de Thomas Huxley, qu'on surnommait, je rappelle, le bulldog de Darwin, hein, parlons de chien. Alors, la représentation imaginaire de l'animal pour Wells était indissociable d'un imaginaire de la science, et c'est dans cette perspective que je voudrais travailler. Alors, il s'agit donc de l'amorce d'une recherche, et je m'excuse de cette formule rhétorique un peu facile, qui est souvent l'excuse pour ne pas répondre aux questions en disant « je ne sais pas encore », mais si jamais je ne peux pas répondre à toutes les interrogations, j'espère établir un dialogue intéressant. Alors, dans The Companion Species Manifesto, Donna Haraway voit dans l'espèce de compagnie une figure bricolée, à l'image de celle du cyborg sur laquelle elle a beaucoup travaillé. Elle envisage notre rapport aux espèces animales, et aux chiens en particulier dans ce livre, dans une perspective biosociale, tenant compte d'une cohabitation relevant d'une socialité interspécifique, interespèce. Le terme biosocial rappelle le concept de biopolitique développé par Foucault et arrime à la fois les dimensions sociales, ontologiques et politiques. La coévolution nécessite en ce sens d'envisager un regard singulier sur l'animal devant lequel je me trouve. Il apparaît alors fallacieux d'en parler de manière générique, comme si l'homme avec un grand H se différenciait et s'opposait à l'animal avec un grand A. J'en vois ici au propos du philosophe Jacques Derrida sur la question dans « L'animal que donc je suis », texte dans lequel il rejette le terme « animal au singulier », simplification conceptuelle et geste de répression violent par la césure suggérée, comme s'il n'y avait que 2 espèces, l'humaine et l'animal, regroupant de manière injustifiée des espèces radicalement différentes. Alors, en guise d'exemple liminaire, je m'appuie sur 2 ouvrages que je vais vous présenter, que je choisis volontairement aux antipodes, et 2 ouvrages assez simples à baliser dans la mesure où les éléments d'ordre scientifique sont marginaux. J'ai peu de temps, alors ça va m'aider à simplifier. Le premier est un recueil de nouvelles de science-fiction bien connu, publié en 1952 par l'Américain Clifford Simak. Sauf pour la dernière, elles ont d'abord paru dans la revue Astounding entre 1944 et 1947. Il s'intitule City, en français, Demain les chiens. Le deuxième est un récit de Romain Gary, Chien blanc, publié en 1970 et qui relate des événements liés à la réalité sociale américaine de 1968. Et malgré leurs divergences innombrables, je pose l'hypothèse qu'ils se rapprochent par la perspective politique dont le chien surgit comme le symptôme et aussi, peut-être, par 2 formes de misanthropie. Alors, l'ouvrage le plus célèbre de Simak propose 8 contes ordonnés chronologiquement dont le statut paraît dans le livre problématique. Chaque conte est présenté d'une brève introduction qui sert à le contextualiser. La particularité est la suivante. Ces contes racontent, à différentes époques, entre 1990 et 12 000 ans plus tard, comment l'humanité est peu à peu disparue au profit des chiens qui forment dorénavant la principale race pensante. On y rencontre les membres de la famille Webster sur de nombreuses générations et un robot inusable, Jenkins, qui apparaît dans le troisième conte et ne disparaîtra plus. Pour la plupart des spécialistes canins, ces contes sont de pures légendes, un cycle qui invente une espèce imaginaire qui aurait précédé le chien. La ville sera un signe de cette impossibilité historique, car pour les herméneutes canins, aucune espèce ne serait parvenue à vivre dans des endroits pareils. Pour d'autres, par contre, historiens et philologues canins, ces textes possèdent un ancrage historique, d'une histoire si ancienne que trop d'éléments échappent à l'entendement pour en faire une lecture précise. Quelle que soit l'opinion, on souligne que le point de vue humain est opposé à la logique canine. Le livre de Simak est associé à la science-fiction, mais loin du courant de la hard science fiction, dans lequel les technologies décrites se rapprochent de la connaissance scientifique réelle. Nous sommes plus près du conte, et d'ailleurs la préface de l'éditeur surjoue dès les premières lignes le genre, nous situant entre la pastorale et les tall tales américains. Alors je cite, « Voici les histoires que les chiens racontent au coin du feu quand le vent souffle du nord. Chaque famille se réunit autour du foyer. Les chiots, assis en silence, écoutent et le récit achevé pose maintes et maintes questions. C'est quoi l'homme? Demande-t-il. Ou c'est quoi une ville? Voire c'est quoi la guerre? » Cette mise en place d'un monde en apparence édénique, un peu naïf, relève d'une certaine nostalgie. L'ouvrage n'en est pas exempt. Cette impression donnée par l'incipit masque pourtant une présence réelle de la science, aussi superficielle soit-elle, car peu crédible en ne s'appuyant pas sur un cadre et une rhétorique scientifique consistant, elle sert néanmoins d'embrayeur narratif. Les contes permettent de croiser êtres humains, chiens, mutants et robots, et plusieurs autres animaux, y compris des fourmis qui en viendront occuper l'espace terrestre, au point où les chiens, suivis des autres espèces, partiront dans un univers parallèle au nôtre qu'ils sont en mesure de déceler. La place occupée par les robots est fondamentale. Il y a un parallèle à établir avec les publications d'Isaac Asimov à la même époque. Ce dernier, on le sait, fera naître une vision toute positive des robots à partir des trois lois de la robotique, qui est un néologisme qu'il crée. Selon ces lois intrinsèques à leur mécanisme, les robots ne peuvent s'attaquer à l'être humain. Ils le protègent. Les règles sont établies de manière moins scientifique chez Simak, mais les robots sont aussi au service de l'humanité. Ils semblent, de plus, lui survivre. Ils jouent un rôle de pivot, car ils serviront aussi bien les humains que les chiens par la suite. Le premier chien qu'un témoin fort étonné, on s'en doute, entend parler, se nomme Nathanaël. Ce nom signifie « donné par le Seigneur » ou « don de Dieu », ce qui ajoute une dimension mythique à un phénomène s'expliquant scientifiquement. En effet, le témoin ahuri découvre que des greffes pratiquées par un des célèbres membres de la famille Webster permettent de donner la parole aux chiens. Le pari de Webster fonctionne, les modifications chirurgicales deviennent héréditaires. Pour le reste, les manipulations que nécessitent des mains, par exemple, les robots suppléeront dans les millénaires à venir aux besoins des chiens. Les contes suivants le démontreront. À son invité, Webster affirme « Songez-y, un esprit différent de l'humain, mais capable de se conjuguer avec lui, d'appréhender les concepts que l'esprit humain ne pourrait appréhender, de concevoir des philosophies que l'esprit humain ne pourrait concevoir. » En imposant aux chiens ces greffes qui leur inculquent la parole, Simak propose un lien intertextuel assez clair. Ces expériences ne peuvent que rappeler celles du sinistre docteur Moreau de Wells, qui opère les animaux, greffe, opération du cerveau et du larynx, pour les transformer en humains. Mais après un court laps de temps, ils redeviennent animaux. Terrorisés, torturés par le médecin dans des opérations où le sadisme est manifeste, sauf pour Moreau lui-même, ils finissent par se révolter et s'attaquent à lui. Chez Simak, les chiens se contentent de manière beaucoup plus douce de faire disparaître l'humanité de leur mémoire. Là où Wells met en scène le modèle du savant fou qui ne pense narcissiquement qu'à la réussite de ses travaux, Simak présente un chercheur qui a pour ambition de faire du chien l'égal de l'humain en lui donnant de nouvelles potentialités et pour le bien mutuel des deux espèces. Au troisième conte, on assiste à l'amorce de la métamorphose du chien. Au quatrième, la disparition prévisible de l'humanité s'ébauche. Pour coloniser la planète Jupiter, les humains doivent apprendre à en supporter l'atmosphère et pour cela passer par une machine qui les transforme. Sauf qu'aucun des cobayes ne revient. Se sentant coupable, le responsable de l'opération, Ken Fowler, décide de faire lui-même le test en s'accompagnant de son vieux chien. Mais lorsqu'il traverse vers Jupiter, il comprend que ses prédécesseurs ne sont pas revenus parce qu'ils étaient trop bien. En effet, l'esprit se trouve sollicité par des sensations incroyables pour lesquelles Fowler ne trouve pas de mots. De plus, il peut parler à son chien car il existe dans cet espace singulier, ce lieu de passage, une véritable fusion des esprits. Il s'agit donc de la traversée d'un seuil, symbolique mais aussi littéral, avec l'échappée hors du vaisseau qui fait entrer dans un monde autre, supérieur à celui que connaissent les humains. C'est pourquoi personne n'en revient. Mais Fowler se fera violence et retournera sur Terre pour annoncer la bonne nouvelle, ce qui poussera la majorité des gens à quitter la planète pour cet espace éthéré. Les derniers humains sur la planète finiront les uns après les autres par utiliser une méthode de sommeil pas très éloignée de la cryogénisation et laisseront le monde aux humains. À l'époque du transhumanisme, le nôtre, il est facile de voir un parallèle en cet espace plus ou moins désincarné dans lequel vont se fondre les humains et le rêve d'immortalité qui consisterait à transférer son esprit dans une machine. On croira que, comme chez Simak, il ne s'agit que de projections imaginaires, mais rappelons que Google est le principal investisseur des projets transhumanistes et Raymond Kurzweil, le responsable d'ingénierie chez Google, un des principaux défenseurs des objectifs du mouvement. Si on peut parler dans ce cas de couplage d'êtres humains, éventuellement réduits à leur seul cerveau, avec différents types de machines, l'ouvrage de Simak propose plutôt un nouveau type d'humanité dont l'obsolescence pour les besoins terrestres semble vite confirmée. La cohabitation, la dimension biosociale, hein, je me réfère à ce que Haraway raconte, arrive vite à terme. Il s'agit moins de cohabitation que de leur remplacement. Mais, commencé au milieu de la Deuxième Guerre, revu et terminé au moment de la guerre froide et du mécartisme, l'ouvrage est celui d'un homme fort pessimiste devant l'avenir de l'humanité. Comme l'écrit Juliette Feriel, le livre de Simak porte la trace de la guerre froide et de la hantise d'une apocalypse dont Hiroshima a fourni un avant-goût. C'est pourquoi les chiens et les robots de City sont post-humains de deux manières. Non seulement leur civilisation succède à la nôtre, mais ils sont en outre présentés comme des êtres supérieurs. Fin de la citation. La science permet de faire basculer chiens et robots du côté d'une civilisation qui ne reposera plus sur un rationalisme techniciste engendrant guerre et haine. Guerre et haine sont au cœur de Chien blanc de Romain Gary, dont le chien devient en quelque sorte la victime. C'est présenté comme un récit autobiographique, jusqu'à quel point, je ne sais pas exactement, Gary apparaît parfois comme un personnage un peu trop romanesque et les situations tombent un peu trop bien parfois. Mais bon, disons qu'il y a une part de fictionalisation sûrement. Chien blanc se déroule pour l'essentiel en Californie en 1968, alors que l'écrivain habite avec la comédienne Jean Seberg, qui aide les groupes d'extrême gauche afro-américains, et en partie à Paris, où Gary se retrouve en mai 68, donc. Cynique, l'ouvrage s'en prend aux bons sentiments et à la naïveté, aux profiteurs, aux arrivistes, à la démagogie et à la propagande. Il porte sur la situation politique un regard souvent désespéré, les meilleurs passages, et parfois condescendant, les moins réussis. Alors, si le livre de Simak propose un seuil où tout bascule à la fin du quatrième conte, au milieu de l'ouvrage, le seuil chez Gary se confond avec les premières lignes. Son chien Sandy, à qui d'ailleurs le livre est dédié, rentre d'une promenade en solitaire et en ouvrant la porte pour le laisser entrer, le narrateur le découvre accompagné. Je cite, « C'était un berger allemand grisonnant, âgé de 6 ou 7 ans environ, une belle bête qui donnait une impression de force et d'intelligence. Il attendait clairement une invitation, revendiquant ce droit d'asile qui était inscrit depuis toujours dans les rapports des hommes avec leurs compagnons d'infortune. Le chien n'a pas de médaille, Gary décide de le garder et l'appelle Patka. Tout démontre, a priori, que c'est un bon chien, sympathique et convivial, sauf que peu de temps après, il découvre que le chien a été dressé à attaquer les Noirs. L'histoire de ce chien reste à l'arrière-plan d'un récit portant essentiellement sur les tensions raciales en 1968. Elle hante pourtant le narrateur et joue un rôle central de plusieurs façons. Le titre du livre, d'ailleurs, indique bien son importance. Dans « Chien blanc », il faut entendre « Chien de blanc ». La dimension scientifique passe par le biais éthologique et comportemental. Découvrant son état, le narrateur conduit le chien au zoo privé de Jack Carruthers qui entraîne des animaux pour des films et lui demande de le déconditionner. La réponse catégorique est négative. Le chien, trop vieux, est irrécupérable. Carruthers accepte néanmoins de garder le chien en cage dans son zoo. Le narrateur va le voir chaque jour, je cite, Chaque fois que je venais voir Batka dans sa cage, je croyais voir dans son regard une interrogation muette. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi suis-je enfermé dans une cage? Pourquoi ne veux-tu plus de moi? En sortant de là, j'étais pris d'une véritable haine envers moi-même et, pour reprendre la phrase célèbre de Victor Hugo, lorsque je dis je, c'est de vous tous que je parle, malheureux. Un des spécialistes du comportement animal au zoo, un homme surnommé Keys à cause de l'immense trousseau de clés qu'il traînait, accepte de tenter de transformer le chien. Sauf que l'homme en question est un Afro-Américain. Il n'est certainement pas innocent que le narrateur note la première fois qu'il le voit une vague ressemblance avec Malcolm X. Montrant si besoin était que la science n'est pas objective, cet homme projettera ses propres démons dans l'animal, à travers lesquels il voit le maître. Cherchant d'abord à affamer et assoiffer l'animal, puis en mettant son propre fils dans la cage tout en attachant le chien pour qu'il s'habitue, il sera rappelé à l'ordre par Carruthers et parviendra à la surprise de tous à rééduquer l'animal, mais ce ne sera que pour en faire un chien noir qui attaque les blancs, ce qui conduira finalement à la mort du chien. Le chien devient victime de la haine, souffre douleurs symboliques et plus que symboliques. Jane Seberg est approchée par des membres du SDS, hein, le Students for Democratic Society, dont je rappelle que c'est un mouvement de gauche très impliqué politiquement, notamment dans la guerre contre le Vietnam. Et elle est approchée par eux pour qu'elle donne son chien vicieux, entre guillemets, qu'on brûlerait au napalm sur la place publique en signe de protestation contre la guerre du Vietnam, prenant pour acquis que la mort d'un chien aurait plus d'effet encore que celle d'un humain. Et on l'a compris, ce serait pour eux beaucoup moins grave. La première fois que Gary, dans l'ouvrage, entend cette histoire, il est à l'étranger et elle lui est rapportée par un ami. Quand même, ça va loin, cette idée d'arroser un chien d'essence et d'y mettre le feu. Sur le coup, Gary ne comprend pas trop de quoi il est question, mais comme par une association d'idées naturelles, il enchaînera en affirmant, ce qui frappe immédiatement lorsqu'une flambée de violence raciale atteint son apogée, ou à la page suivante, dans le ghetto qui s'enflamme. Donc le chien est celui qui, bien malgré lui, pour filer la métaphore, met le feu aux poudres. Il devient le modèle et la manifestation des contradictions et des paradoxes qui traversent les personnages du livre, tel cet antiraciste militant, lui-même juif, qui demande à Gary s'il ne pourrait pas acquérir le chien pour protéger sa maison. Comme le disait si bien Serge Gainsbourg, qui promène son chien est au bout de la laisse. Gary s'identifie au chien et va lier sans cesse questions canines et humaines. Quand il est enragé et ne sait plus quoi faire, il dira qu'il a perdu sa laisse, ou encore qu'il ne parvient pas à civiliser son animal intérieur quand c'est au volant, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Là où il y a de la haine, il ne peut y avoir éducation, ajoute-t-il, seulement dressage. Désabusé, il ira jusqu'à dire à Batka, « Je ne te demande pas de ne pas mordre les noirs, je te demande de ne pas mordre seulement les noirs. » Là encore, la dimension biosociale semble ô combien ténue. Pourtant, c'est grâce aux animaux, et aux chiens en particulier dans le roman, dans le livre, que le narrateur revient aux humains. Je cite, C'est assez terrible d'aimer les bêtes. Lorsque vous voyez dans un chien un être humain, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir un chien dans l'homme et de l'aimer. Et vous n'arrivez jamais à accéder à la misanthropie et au désespoir. Alors, je conclurai en disant que le lien avec la science dans ces deux ouvrages est mince, mais il donne une perspective à la manière dont la fiction peut penser le rapport à l'animal. Les textes où cet ancrage est plus net sont nombreux. J'en donnerai quelques exemples pour ouvrir en conclusion. Par exemple, dans des cas où apparaissent des êtres humains en partie humains, des êtres en partie humains, en partie animaux. J'ai mentionné le roman de Wells, on peut aussi penser à des œuvres variées aussi varié que Cœur de chien de Mikhail Bulgakov, qui m'enseigne un savant fou et des expériences médicales, Oryx and Craig de Margaret Atwood, qui nous place dans un univers génétiquement modifié, Beast de John Crowley, qui m'enseigne une nouvelle science qui transforme les espèces, La nouvelle de Fly de George Langeland, où, à la suite d'une expérience scientifique, un homme se voit partiellement transformé en mouche, et bien sûr, ces nombreux textes qui, dans la foulée des animaux dénaturés de Vercors, jouent sur la frontière des espèces. On peut penser aussi à des ouvrages où les individus se pensent comme animal. Je ne nommerai que l'hilarant The Great Apes de Will Self, qui convoque thérapies diverses, psychiatrie, antipsychiatrie et psychanalyse pour comprendre pourquoi un artiste talentueux se prend pour un chimpanzé, à moins que ce ne soit l'inverse. Enfin, il y a ce vaste courant d'ouvrages où se crée un lien fort entre l'animal et l'être humain par un biais scientifique, souvent passant par l'éthologie, comme dans Brazzaville-Plage de William Boyle, parfois de manière militante, sans nécessairement que ce soit didactique, comme dans Le Parfum d'Adam de Jean-Christophe Ruffin, sans les orang-outans d'Éric Chevillard ou American Darling de Russell Banks. Les sciences appartiennent depuis toujours à la culture et à ses discours et jouent ainsi un rôle important dans la fiction, qui s'en sert pour montrer comment elles changent nos perceptions, notre rapport au monde et au langage. Le développement des discours sur le spécisme dans le discours social actuel, parallèlement au succès de questions comme l'altérité ou l'hybridité depuis un quart de siècle, donne l'occasion de réfléchir à ce rapport radical à l'autre animal dans un cadre darwinien. La perspective scientifique permet de baliser intellectuellement le projet que je voudrais développer, analyser des textes qui, à travers leur narration, permettent de penser ce rapport à l'animalité. Cette perspective scientifique qui se situe dans un cadre large, des ouvrages qui impliquent un rapport de rationalité, de logique, de réflexion entre l'être humain et les animaux, ce qui n'oblige pas à rester dans un cadre réaliste. Alors l'important serait d'explorer les brouillages provoqués par des frontières de plus en plus friables entre les espèces, la manière dont ils se manifestent et, de cette façon, des questions limites d'identité. Je vous remercie beaucoup. Merci.